Place Info.
Et cela n'a l'air de rien comme cela, mais l'émission de ce soir, et si ce n'est historique, du moins a marqué d'une pierre blanche. Cela faisait 4 mois, effectivement, que le week-end, les informés n'avaient plus le droit de rentrer dans la maison de la radio. Ils étaient au téléphone, ils s'écoutaient parfois, mais ne se voyaient pas, ce qui est toujours un handicap pour débattre. C'est leur grand retour ce soir, et très heureux de vous accueillir. Bonsoir Hélène Pilichowski.
Bonsoir Olivier.
Vous n'avez pas changé, journaliste politique à côté de vous, Jérôme Ripoul, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Communicant, co-président des agences Confluence et Opinion Valley, Anita Hausser, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique, contributrice à Atlantico.fr. Et puis Henri Vernet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Alors vous ne pouvez pas les voir à la radio, mais ils sont magnifiques, bien habillés, bien maquillés, rasés de près et prêts à en découdre durant une heure de débat.
Le premier sentiment qui m'anime cet après-midi, après cette élection au poste de maire de Marseille, c'est le soulagement. Je suis soulagée et heureuse de savoir que la volonté de la majorité et du peuple de Marseille a été respectée.
Voilà, elle est médecin, écologiste, c'est la première femme à occuper le fauteuil de maire de Marseille et elle est donc soulagée et heureuse, comme vous venez de l'entendre. Michel Rubirola a donc été élu maire de la cité phocéenne à l'issue d'un conseil municipal haut en couleur, on va dire ça comme ça, puisqu'elle ne disposait que d'une majorité relative. Cette élection, Anita Hausser, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie ?
Pour la démocratie, oui, parce que Michel Rubirola avait près de 16 000 voix de plus que la candidate de droite, Martine Vassal. Et par le jeu des secteurs, il y avait égalité de sièges entre le printemps marseillais et la droite. Et la droite LR. Donc, gros problème, qui allait jouer les arbitres ? Le Front National, non. Donc, c'était Samia Ghali. Samia Ghali, qui est en rupture de banc avec le PS, et le printemps marseillais, elle n'avait pas rejoint le mouvement, c'était elle, la faiseuse ou la défaiseuse de roi. Bon, finalement, vous dites que ça a été une élection haute en couleur. Michel Rubirola a été élu au deuxième tour, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on a assisté à des choses, à des élections plus compliquées.
Mais il y a eu beaucoup de tractations en coulisses, on en a beaucoup parlé tout au long de la semaine. C'est pour ça que je me permettais de dire haut en couleur, ce qui est d'ailleurs plutôt sympathique d'ailleurs comme terme. Henri Vernet.
Aujourd'hui, c'était de la popole, vous savez, de la politique, voilà, de ce qu'on appelle la popole, c'est-à-dire la politique, la tambouille, etc. Mais plutôt,
comme il y a la popote
d'accord.
Et il y a la popole.
La popole, ça, rappelez-vous, c'était une expression favorite d'Edouard Philippe pour désigner la politique.
Hélène Pilichowski écarquille les yeux complètement.
Qui n'est pas celle des grands dossiers, c'était son expression, il dit ça comme ça, il y a les grands dossiers d'une part, et la popole, c'est-à-dire la politique qu'on fait tous les jours, entre partis et souvent entre camarades de partis. Et donc, aujourd'hui, non, c'est un déroulement, il y a des tractations, c'est un peu normal. Alors, il faut dire aussi que ce qui aurait pu être antidémocratique, ce sont en revanche les jours qui ont précédé, les manœuvres auxquelles on a assisté, où à un moment on a pu croire que le vote de dimanche, qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise, était quand même l'expression d'un désir de changement, d'une vraie dynamique à Marseille. Et donc, quand on a vu un moment que la candidate de droite, LR, alors pour des raisons de querelles intestines, Martine Vassal, pour des querelles intestines à la droite, comme seule, elle s'est en réservée, alors qui plus est à Marseille, on est arrivé donc à un embrouillamini, elle s'est retirée. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Quelqu'un, donc en l'occurrence Guy Tessier, monsieur certainement tout à fait respectable par ailleurs, député, mais qui n'était même pas candidat, même pas tête de liste, est donc élu au privilège de l'âge, donc pour des combinaisons politiques. Et là, ça aurait été un déni de démocratie. Mais en revanche, bon, donc là, finalement, en effet, la démocratie, la majorité, certes relative, mais c'est ça, la démocratie a prévalu.
En siège,
et donc on retombe. Oui, bien sûr, en siège. Oui, mais ça.
Ah oui, parce qu'on a déjà vu des élections avec.
Dans ce cas-là, il faut remettre en cause le système PLM. Pourquoi
pas d'ailleurs, qu'il faut remettre en cause.
Absolument, ça peut être une vraie réflexion, ça oui.
Hélène Pilichowski.
Oh bah oui, absolument, on a assisté.
On est passé de très près de la catastrophe.
Oh bah c'était quoi la catastrophe?
Je sais pas, je les écoute. Ah,
le doyen
d'Alain.
Avec le doyen. Non, mais bien, c'est sûr. C'est sûr que Guy Tessier, quand on a commencé à se dire que.
On aurait gagné 5 ans
pour changer, renouveler Marseille, succéder à Jean-Claude Gaudin, qui lui, partait pas au bénéfice de l'âge, mais il était temps qu'il s'en aille quand même. C'est vrai. Et on s'est dit, mon Dieu, ça serait quand même dommage pour Marseille. Ça, c'est vrai. D'autant que le score du premier tour de la responsable du printemps marseillais, qui est maintenant maire depuis cet après-midi, dit, Michel
Robéola. Il va falloir retenir son nom.
Je
crois qu'on entendra parler d'elle.
Absolument. Son score était quasiment de 40% au premier tour, je crois presque 40%, ce qui était extraordinaire. Il n'y en a pas autant que ça, vu le nombre de candidats, le nombre de formations qui étaient concernées. Non, c'était un très beau score. Ce qui s'est passé aussi, qui était un peu étonnant, c'est que Michèle Rubirola, malgré elle a une certaine expérience, c'est une écologiste de longue date, c'est un médecin, elle semblait, dans ses petites interventions qu'on a pu voir, un petit peu être presque submergée par la tâche qui l'attendait en disant
pas une grande expérience politique.
Conseiller territorial, quand même, un petit rôle politique. Enfin, un rôle politique qui est tout à fait respectable.
Mais Marseille, c'est
la deuxième ville de France, quand même.
Deuxième ou troisième. Ça dépend si vous voulez vous fâcher avec quel Lyonnais ou pas.
Moi, je pense que, contrairement à ce que vous dites, il n'y aurait rien eu de gênant à ce que ce soit Guy Tessier qui soit élu. Mais pour une raison simple.
Il n'y avait pas
de majorité absolue. Il y a une majorité relative et effectivement, ça aurait été de la combination de la vieille politique, mais il n'y aurait rien eu d'antidémocratique. Hein. C'est le système PLM qui veut ça.
Le climat aurait été épouvantable.
Au sens arithmétique, vous avez raison. Au sens politique, oui, ça aurait été antidémocratique.
Sans doute. Voilà. Mais en tout cas, il y aurait une majorité qui serait dégagée, y compris dans les... Mais ce que je trouve de la part de Rubirola, c'est qu'elle a été très très ferme sur ses positions. Quand Sam Magali a commencé à vouloir jouer un chantage, elle a refusé. Et elle a eu raison. Et là, en cela, elle a tranché avec les combinations, la vieille politique marseillaise, comme on l'a connue. C'est quelqu'un d'étonnant parce qu'elle a remis les choses dans leur ordre. Et puis surtout, elle a quand même embrassé, malgré le confinement, l'ancien maire de Marseille, comme s'il y avait finalement une sorte de réconciliation.
Et une rupture.
Voilà.
Reste à savoir si Sam Magali sera première adjointe ou pas. On ne sait pas.
C'est là que c'est moins démocratique. Je vous arrête
parce que les informés, c'est pas démocratique. À 20h10, c'est la tyrannie du fil info. Mais on se retrouve après. Et on va continuer à débattre de la situation marseillaise. Le fil info, c'est avec Frédéric Benyada.
La fin du match à Marseille pour la succession de Jean-Claude Gaudin, mais il a fallu attendre les prolongations. Au final, l'écologiste Michel Rubirola, chef de file d'une union de la gauche, devient la première femme à diriger la deuxième ville de France. Il a fallu attendre un troisième tour de scrutin et le soutien de Sam Magali, son ex-adversaire, pour que Michel Rubirola s'impose à Marseille, qui passe à gauche. Après 25 ans de règne républicain de Jean-Claude Gaudin. À Lyon, Grégory Doucet a tourné la page colon dans l'apaisement. Premier écologiste, là aussi, a dirigé la capitale des Gaules. Grégory Doucet qui a entériné le départ de Gérard Collomb, beau joueur malgré une cuisante défaite au municipal. Il a voulu montrer qu'il était déjà au travail. Le nouveau Premier ministre Jean Castex a visité aujourd'hui une usine de Corbeil-Essonne, le site de production de semi-conducteurs du groupe X-Fab. Rencontre avec les dirigeants, les salariés, les parlementaires et des élus locaux. Jean Castex qui a invité tous les parlementaires de la majorité lundi soir à Matignon. Un accident mortel dans un parc d'attractions à Saint-Paul, dans l'Oise. Une femme d'une quarantaine d'années est tombée d'une montagne russe. Les pompiers n'ont pas réussi à la sauver depuis l'accident. Le parc d'attractions est fermé. Et puis retour en arrière en Espagne où l'on reconfine. 200 000 Catalans n'ont plus le droit de quitter le secteur de Lérida, à environ 150 km à l'ouest de Barcelone. Les cas de Covid explosent dans la région. Plus de 7 000 nouveaux cas en moins de 2 jours.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Olivier Delagarde.
Les premiers débats de la soirée. On revient sur cette élection à Marseille. Michel Rubirola est donc devenu la maire de la cité phocéenne. Alors, après Lyon, les Verts sont à la tête désormais des trois premières villes françaises. C'est une façon de présenter les choses pour se fâcher ni avec les Marseillais ni avec les Lyonnais, vous voyez. Cette poussée électorale, Jérôme Ripoul, au niveau local, est-ce qu'elle peut se poursuivre au niveau national?
Alors, d'une part, moi j'ai envie de relativiser la vague verte qu'on nous décrit. C'est une vague verte qui est très urbaine. Donc effectivement, les Verts sont en train de... Europe Écologie des Verts est en train de monter dans les milieux urbains, où l'écologie fait floresse et où, j'allais dire, une certaine population est plus attentive. Dans les milieux ruraux et périurbains, les Verts font pas recette.
Il y a les Verts en ville et les Gilets jaunes à la campagne. Quoi.
Mais pourquoi les Gilets jaunes
comme ça. Oui,
pour la formule. Oui. Verts et jaunes, oui. Si vous voulez mais bien.
C'est vrai que les Gilets jaunes sont plutôt périphériques. Donc moi,
je ne pense pas
qu'il y ait... Alors, ils ont un avenir électoral. Sans doute, les régionales leur seront encore profitables. Ça, il faut quand même bien le prendre en compte. Et après, il y a toujours le mur de la présidentielle où ils se crachent régulièrement et je vois pas pourquoi ça changerait. Donc là, effectivement, une embellie. Maintenant, de là à dire un tsunami, non.
Anita Husser. Pour rebondir, est-ce qu'il y a une poussée véritablement? Est-ce que les Verts qui viennent de remporter plusieurs métropoles importantes, oui. On a vu que d'ailleurs à Lille, ils étaient passés
à une très très grande abstention.
Oui,
Et c'est toujours l'électorat le plus motivé qui va voter. Donc effectivement, ce sont les électeurs verts les partisans des Verts qui sont allés voter parce que je crois qu'il y a eu les effets du confinement et que tout le monde aspirait à respirer et à avoir plus de verdure, mais n'a pas toujours regardé les programmes, parce que quand vous regardez bien les programmes des nouveaux élus verts, vous êtes, je ne parle pas de Michèle Rubirola, qui est en rupture de banc avec ELV. Elle a quitté le parti, mais je crois qu'il va y avoir
des surprises. Vous êtes d'accord avec le chef de file de LR à Lille, qui s'est rallié à Martine Aubry, en disant « les Verts sont des dingues ».
Je dirais pas jusque-là, mais je dirais que c'est pas tout
des
à fait...
Des fous furieux, me dit-on d'ailleurs.
Un peu, oui.
Pour reprendre dans l'expression in extenso.
Ah oui, il y a un peu de ça.
Hélène Pilichowski, vous qui abordez un chemisier vert, c'est la don.
Bah oui, c'est comme ça, c'est dans le vent. C'est comme ça, ils ont le vent en poupe. Voilà. Donc, mais je ne me suis pas encore inscrite à Europe Écologie Les Verts.
Vous faites ce que vous voulez.
Je pense que ce n'est pas tout à fait le même électorat qui a élu donc les maires dans les grandes villes que l'électorat des campagnes. Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Là, c'est une mode un peu intellectuelle, actuellement. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est un combat tout à fait légitime, que personne ne peut contester. Mais je pense qu'il y a plus de motivation dans l'électorat. Pour Paris, c'est un peu bobo, etc. C'est un peu intellectuel quand même, quelque part. Alors que dans les campagnes, on a le souci de ce qui se passe dans son cercle, dans sa municipalité. C'est prioritaire. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier au niveau national ? Je pense pour l'instant qu'on fait de la transposition un peu trop rapidement. Parce que si vous totalisez le nombre de voix compte tenu de la subvention des Verts stricto sensu, parce que les Verts n'ont pas conquis des villes et certainement pas les grandes villes, seuls, ce sont des coalitions partout. Donc qui va peser au fur et à mesure du temps? On va voir comment va se passer leur coopération, leur cogestion dans les villes qu'ils ont conquises. C'est pas gagné d'avance, parce que vous savez que les Verts, en particulier Europe Écologie Les Verts, quand on disait certains disent ce sont des fous, ce ne sont pas des fous, mais ce sont quand même des militants,
oui,
des militants extrêmement engagés. Idéologues quand même, et même parfois on disait souvent qu'ils étaient gauchistes. Et même quand Lionel Jospin avait réussi sa fameuse Dream Team, où il y avait quand même des Verts qui sont arrivés au pouvoir, ça avait très très bien commencé, il en était très fier, et puis ça s'est plutôt mal terminé.
Il ne faut pas trop ergoter vague verte ou pas, etc. La réalité, c'est quoi? D'abord, vous l'avez souligné tout à l'heure, votre formule vous-même, dans les médias, on a tendance, comme les politiques d'ailleurs, à simplifier, à synthétiser les choses. Le fait est que, si on regarde d'où partaient les Verts, il y a effectivement une vague verte. Alors, il faut pas non plus trop caricaturer, je crois. Non, bien sûr, mais enfin, c'est une réalité. Et c'est pas que à Paris, à Lyon, à Marseille, c'est aussi dans des villes, à Bordeaux, c'est à Poitiers, c'est
à Grenoble, ils ont regagné.
Exactement. C'est dans beaucoup, beaucoup de villes, donc il se passe quelque chose pour les Verts. Ça, c'est très clair. Ils viennent de loin. Et chaque fois, ils grignotent. Ils ont énormément grignoté déjà aux Européennes. Il y a un empile. On voit bien qu'il y a ce mouvement. Alors pour la question d'Olivier, est-ce que ça peut se traduire nationalement? C'est vrai qu'il y a une malédiction qui pèse sur eux, mais qui est due à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un vrai parti de militants, les Verts. Et regardez, là, comment dire, c'est le talent qu'ils ont pour écarter, quand par exemple, quand on
dès qu'ils ont un
Jolie,
talent, quoi, voilà.
Daniel
Cohn-Bendit.
Exactement. Daniel Cohn-Bendit, d'ailleurs, était le premier à le regretter. Il fait un score phénoménal en 2009. Et puis après, il ne se passe rien, etc. Bon. Et cette aventure-là se reproduit Nicole Hulot, donc qui est bazardé dehors au profit d'Eva Cohn-Bendit, qui a fait la brillante campagne dont tout le monde se souvient. Mais est-ce que ces démons-là, ils ne peuvent pas les surpasser? Moi, je pense que oui. Et d'ailleurs, et donc sur le plan national, je crois que l'expérience du printemps marseillais, elle est à regarder de très très près. Parce que imaginez que celle-là se reproduise, c'est-à-dire que réellement la gauche arrive à s'unir, donc ce qu'elle a fait à l'échelon marseillais, là,
s'unir autour des Verts.
Bien sûr, autour des Verts.
Au détriment du PS. quand même, non,
mais,
Henri, parce que...
Mais peut-être, parce qu'il on parle de la gauche, on parle de la gauche. Oui. Et donc, est-ce que ça peut donner mais quelque PS chose dans la perspective d'une présidentielle? Eh bien, pourquoi pas? Entre-temps, c'est vrai que pendant 2 ans, on va les observer gérer à la gestion. Mm. Et là, ce sera un peu de vérité. Mais oui, il y a quelque chose qui se passe. Et juste une chose, peut-être que ça met en cause, vous savez, l'affiche qui est annoncée déjà depuis Belle Lurette, un deuxième match, Le Pen-Macron, peut-être que non, les Verts et la gauche, en tout cas, sont...
Ça dépendra de leur candidat.
Mais bien sûr, la réaction d'Olivier Faure... On n'a plus le temps.
Si non, justement, je voulais vous donner la parole, Jérôme Ripoul. Ça fait un quart d'heure que vous essayez de nous dire quelque chose.
Pas du tout.
Allez-y, vous avez la
merci,
parole.
Merci, merci. Non, moi, je pense qu'il y a, d'autant moins une vague verte qu'il y a un PS effondré qui aujourd'hui... Regardez Lille. Lille, c'est un cas intéressant. C'est-à-dire que si Martine Aubry avait eu... Enfin, elle a failli passer à la toise de
l'Europe Écologie Les Verts. Le fait est qu'elle est maire.
Le fait est que ça s'est passé à très peu.
Mais donc, la démocratie,
ce qui s'est passé,
c'est que... Jérôme Ripoul a raison. Ça s'est passé à très peu de choses alors qu'on aurait pu imaginer...
Ou à Grenoble, on voit bien que le PS s'est effondré, qui devient le supplétif d'Europe Écologie Les Verts, et que ce faisant, effectivement, Olivier Faure acte ça. Sauf que ça veut dire que le PS peut y passer et qu'on peut avoir, on peut switcher et on peut
dans ce cas-là, serait achevée l'œuvre de François Hollande.
Exactement.
Hein. Il faut connaître qu'au PS, quand même, quand on voit que son premier secrétaire, le lendemain du sommet, commence à dire tout de suite qu'il va se retirer et qu'il va se planter derrière les Verts.
Qu'il est prêt à se ranger derrière un candidat.
Franchement,
vous avez vu le tollé que ça a soulevé.
Ça montre l'état.
Tous ensemble, parce que si vous parlez tous ensemble, vous en parlez.
On dirait le Congrès des Verts.
La réaction d'Olivier Faure, ce que je voulais dire, ça a montré l'état des Verts et la qualité de ses dirigeants actuels. Excusez-moi, mais pour l'instant, je ne vois pas qui pourrait espérer quoi que ce soit au niveau national dans les effectifs restants du Parti Socialiste.
Oui, du Parti Socialiste. Non, je disais que 2 ans par rapport à la c'est-à-dire ce qui nous sépare de la présidentielle, de nos jours, c'est très long. Non, moi, je pense que les Verts doivent plutôt se méfier, en effet, de ce que. Alors, il se trouve que demain, dans le Parisien, on a une interview de BHL, Bernard-Henri Lévy, où il dit, attention, les Verts sont parfois travaillés par une espèce de démon anti-humaniste. C'est-à-dire qu'ils opposent trop parfois l'écologie à la vie, c'est-à-dire à ce qui est humain. Par exemple, quand on se met à dire, diminuer la place de la voiture, très bien, mais l'éradiquer totalement, non. Se dire, toi, tu pourras voyager en avion, toi, tu pourras pas, etc. Donc c'est à ces excès-là que les Verts doivent se garder. Mais ils ont réellement aujourd'hui une carte politique à jouer qui est inédite. Quoi.
Allez, voilà pour l'élection marseillaise. On va revenir à la politique nationale. Mais 20h20, c'est le Fil Info. Frédéric Benyada.
La liste des nouveaux ministres du gouvernement Castex est bouclée. Selon les informations du service politique de France Info, le nouveau Premier ministre au travail, il s'est rendu cet après-midi dans une usine de Corbeil-Essonne et inviter tous les parlementaires de la majorité à Matignon lundi soir. Après 25 ans de règne de la droite à Marseille, 25 ans de règne Gaudin, Michèle Rubirola devient la première femme à la tête de la deuxième ville de France. La candidate écologiste tête de liste du printemps marseillais a été élue après un conseil municipal mouvementé, des centaines de personnes rassemblées près de la mairie et sur le Vieux-Port pour fêter cette élection. La crise sociale à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, plus de 3500 manifestants ont défilé dans les rues de la ville cet après-midi contre les suppressions de postes annoncées sur le site de Nokia. Le géant des télécoms menace 402 emplois, 1 million en France au total. Les cas de Covid explosent aux États-Unis, nouveau chiffre record, jour de la fête nationale, plus de 53 000 nouveaux cas de Covid recensés en 24 heures. Une progression de la pandémie sans précédent. Dans 7 États, le couvre-feu est instauré. Dans l'État de Miami, le port du masque est obligatoire en public. La situation est critique. Elle peut basculer d'un moment à l'autre. Alerte de la directrice générale de SOS Méditerranée. L'état d'urgence décrété à bord de l'Ocean Viking. 180 migrants attendent de débarquer depuis une dizaine de jours. Certains ont tenté de se suicider. D'autres se sont jetés à l'eau.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, venons-en à la nomination de Jean Castex, qui, il faut bien l'avouer, a surpris tout le monde. Cet énarque de 55 ans a finalement une double particularité. Hein. Il est à la fois un haut fonctionnaire rompu au fonctionnement des arcanes de l'État et un élu local ancré dans son territoire. Autre particularité, ce n'est pas un ténor de la vie politique, pas un leader de parti. Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il sera autre chose que l'homme de paille du président de la République. Question d'ailleurs à laquelle il a répondu chez nos confrères de TF1 hier soir.
Je ne suis pas ici pour chercher la lumière. Je suis ici pour chercher des résultats. Des résultats de l'action publique énergique dans le cadre d'un plan de relance vigoureux que nous préparons pour reconstruire notre pays.
Alors, Jean Castex n'est pas là pour prendre la lumière, Jérôme Ripoul. Ça veut dire que quoi, qu'il va travailler dans l'ombre. Alors, je voudrais tout de même préciser une chose pour que les auditeurs le sachent bien, c'est que Jérôme Ripoul, c'est un proche de Jean Castex. Vous savez, le lobby catalan à Paris, ils se connaissent très bien. Voilà, une fois que c'est dit, la parole est libre. Voilà,
c'est pour ça qu'on l'a invité ce soir.
Je souhaitais préciser parce que ça montrera peut-être ma subjectivité sur le sujet. Non, je pense qu'effectivement, Jean Castex, c'est une personnalité et qu'il ne faut pas être connu pour être une personnalité. C'est quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un qui s'est forgé dans l'action publique, qui a servi effectivement différents présidents et différents ministres et qui, j'allais dire, ne laissera pas sa part au chien. C'est-à-dire qu'en clair, il sera s'imposer, il sera dialogué avec la majorité, il sera dialogué avec le président et c'est un gaulliste social. C'est quelqu'un qui a une lecture de la Ve République très gaulliste. Et donc, le Premier ministre, vous avez eu des premiers ministres qui ont été très forts, qui s'appellent Pompidou, qui s'appellent Barre, et c'est dans ces lignées-là...
Qui avait le même profil, c'est ça que vous voulez dire, qui n'était pas connu, qui n'avait pas de carrière politique avant d'être nommé.
Voilà. C'est-à-dire qu'en clair, il a un profil de haut fonctionnaire, mais attention, c'est quelqu'un qui a des convictions, et il a des idées très précises, il a commencé à les énoncer, donc je pense qu'il y aura un dialogue compétitif entre les deux, mais je pense pas du tout que ça soit quelqu'un qui sera transparent, ni qui se laissera marcher sur les pieds par qui que ce soit.
Bon, Jean Castex a au moins un ami, donc voilà.
Je pense que c'est un homme. D'abord, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont élus locaux. Hein, ça, on oublie de le dire. Ils ne sont pas tous des technocrates derrière leur ordinateur, planqués dans leur bureau. Mais cette parenthèse fermée, Jean Castex, il a déjà fait ses preuves, si je puis dire, même si les Français ne l'ont pas vu. C'est-à-dire qu'il a été monsieur des confinements. C'est le déconfinement, justement, a été un point de tension entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Mais est-ce que c'est la même chose de déconfinement et diriger le pays? Parce que déconfinement, c'est le rôle d'un technicien?
Non, ce n'est pas le rôle d'un technicien, parce que je crois que c'était très subtil, justement, de déconfiner. Parce qu'il,
c'est, des c'était... techniciens subtils hein, aussi, mais bon, c'est le temps passant. Je dis ça pour nos techniciens, cas, notamment, qui réalisent cette émission.
Quand on l'a entendu se présenter dans la cour de Matignon, on a compris que ce n'était pas un fantoche et qu'il est bien planté sur ses pieds et qu'il sait ce qu'il veut.
Hélène Pilichowski, il peut être autre chose qu'un... collaborateur, pour reprendre une vieille formule du président.
Vous toujours des mauvaises intentions à Emmanuel Macron. Je suis pas là
pose les questions qui sont bien anodines.
Comme c'était quelqu'un qui n'était pas dans la lumière médiatique, politico-médiatique, on dit finalement il va en faire un esclave à ses ordres et ça va être plus facile pour lui de gouverner.
Je suis pas dit esclave, j'ai dit collaborateur.
Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron s'imagine qu'en prenant un premier ministre médiocre, ça lui serait favorable et ça lui permettrait à lui de restaurer sa popularité. J'en suis pas certaine et je crois pas forcément, il a fait ce calcul. Il a fait le calcul de quelqu'un de complètement différent de lui et qui pouvait être justement complémentaire. Ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'être loin des territoires, de ne pas savoir s'y prendre, d'être assez maladroit, de donner l'impression qu'il méprise effectivement les territoires français. Et donc, il trouve quelqu'un qui est très aimé. Moi, je n'ai entendu, depuis qu'il est nommé, je n'ai entendu que des louanges de tout le monde. Raymond Soubi, avec les syndicats,
on a eu quelques invités de la France Insoumise au Rassemblement National. Je suis obligé de vous dire que là, c'était pas totalement un concert de louanges.
Oui, mais enfin, disons que
ils ne connaissent pas.
Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, qui a dit que c'était quelqu'un de formidable. Raymond Soubi, qui a dit qu'avec les syndicats, il faisait merveille, ce qui est quand même pas rien, effectivement. Donc, moi, je crois que c'est un calcul politique d'Emmanuel Macron, autre que d'en faire quelqu'un qui lui serait forcément soumis et à la botte. Non, je crois pas que ça soit ça.
Henri Vernet.
Je pense pas qu'il soit totalement transparent, mais je pense qu'il n'a pas du tout d'épaisseur politique et que un homme, c'est certainement quelqu'un de très valable. Cela dit, vous avez parlé, Anita, de la gestion du déconfinement. Alors c'est vrai qu'il a œuvré peut-être un peu plus qu'en simple haut fonctionnaire entre guillemets, mais justement l'histoire qui a beaucoup circulé, qui est véridique, il s'est opposé à un moment, enfin c'est même pas qu'il s'est opposé, il a désapprouvé une décision de Emmanuel Macron, c'était la réouverture du Puy du Fou demandée à Macron par son grand ami Philippe de Villiers. Mais sauf que Castex avait beau eu s'y opposer, ça s'est fait. Et il n'a pas du tout eu son mot à dire. Et je trouve que justement, ça résume par avance ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'homme a évidemment énormément de qualités. Je suis d'accord avec vous, c'est pas la peine d'insister autant sur le côté à la fois grand technocrate, grand commis de l'État et élu local. Il y en a pléthore en France. Et en effet, heureusement que les gens ont quand même ce qui nous, ce qui assure l'administration ont quand même parfois aussi les pieds dans le terrain. Mais politiquement, c'est quelqu'un qui ne pèsera pas.
Et il n'a pas on de troupe, bien... quoi.
Mais non, il n'a pas de nom. Mais
c'était le cas d'Edouard Philippe.
Edouard Philippe était député. Edouard Philippe est l'un des fondateurs de l'UMP. Ouais. Mais non, Edouard Philippe, rappelez-vous, c'était l'un des fondateurs de l'UMP du temps de Sarkozy.
Il ne s'appuyait plus sur les députés de Les Républicains.
Mais quand il était nommé politique, en plus, il a dirigé la ville du Havre. Non, mais simplement, ça acte quoi? Le vrai message de cela, c'est que Emmanuel Macron, mais tout comme Nicolas Sarkozy, tout comme François Hollande, en tout cas sur la fin, a acté la disparition dans notre système du Premier ministre.
On n'a pas tout dit sur Jean Castex. C'est pour ça qu'on va continuer à en débattre dans la deuxième partie des Informés. Restez avec nous.
L'info actualisée en permanence, c'est le fil info de France Info.
J'écoute France Info et je sais tout de suite.
C'est de l'info claire, pratique, concise.
Toutes les 10 minutes.
Le couple franco-allemand a l'initiative pour la relance européenne.
L'info en temps réel, c'est le fil info de France Info.
France Info, à Tours, 105.5.
Et toute l'actualité, des alertes, des vidéos, avec l'appli mobile France Info.
France Info Météo, avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous, maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
Jean-Michel Goulinski.
Pas de changement notable dans la situation demain avec le maintien d'un ciel globalement maussade du nord de la Loire au nord de la Seine, d'un vent toujours assez turbulent dans le couloir de la Manche et tout de même à signaler le retour d'éclaircies par les côtes une fois passée la mi-journée. Plus bas, comme aujourd'hui, le soleil sera particulièrement veillant sur les régions les plus méridionales, mais parfois le ciel sera un peu plus variable du Grand Est au centre et du Massif central au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les températures maximales vont généralement gagner 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui sur l'ensemble du pays, mettant les valeurs entre 20 et 27 degrés dans la moitié nord et généralement entre 29 et 34 au sud, avec des pointes à 36 autour de la basse vallée du Rhône.
Il est très précisément 20h30 sur France Info. Avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Nouveau chiffre de l'OMS, un record de nouvelles contaminations au Covid-19, 212 326 nouveaux cas ces dernières 24 heures. La hausse se concentre surtout et sans surprise aux États-Unis, en Inde et au Brésil. En France, après un quart de siècle de règne de Jean-Claude Gaudin, la gauche a reconquis le fief Les Républicains de Marseille grâce à l'écologiste Michel Rubirola, la chef de file d'une union de la gauche l'a emporté au deuxième tour de vote lors du premier conseil municipal de la mandature. Michel Rubirola, qui est également la première femme à diriger la deuxième ville de France. Première sortie pour Jean Castex dans ses tout nouveaux habits de Premier ministre. Il a visité une usine de semi-conducteurs dans l'Essonne. L'ancien monsieur des confinements a dit vouloir faire tout pour former son gouvernement avant lundi avec le chef de l'État. À Strasbourg, Extinction Rebellion colore la rivière Lille en vert vif à l'aide de colorants biodégradables et non polluants, précise le collectif écologiste qui souhaitait ainsi alerter sur le projet de confinement de 42 000 tonnes de déchets dangereux dans d'anciennes mines de potasse de la région. L'été débute en Espagne sous le signe du Covid-19 également, avec le confinement de 200 000 personnes en Catalogne, un regain des contaminations qui a amené les autorités à faire marche arrière. Plusieurs dizaines de foyers de contagion sont également surveillés dans d'autres régions. Et puis à Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia a, elle, pu rouvrir ses portes après plus de 3 mois de fermeture, en accueillant prioritairement aujourd'hui les personnels sanitaires et soignants, en remerciement de leur engagement pendant la crise. Enfin, Paul Pogba, qui fait de la politique avec ses cheveux, le milieu de terrain de Manchester United et des Bleus arboraient un point fermé, symbole du mouvement Black Lives Matter lors du match de son équipe. C'était face à Bournemouth cet après-midi, 20h32.
Emmanuel Langlois, on vous retrouve dans quelques minutes, mais maintenant, on retrouve surtout nos débatteurs.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on débat évidemment de la personnalité et de ce qui nous attend avec ce nouveau Premier ministre, Jean Castex. Jean Castex qui n'entend pas perdre de temps, apparemment. Un peu, il a effectué un peu à la surprise générale, il faut le dire, aujourd'hui, son premier déplacement comme Premier ministre. Il s'est rendu sur le site de production du groupe X-Fab France, un site de recherche et de production de semi-conducteurs, à Corbeil-Essonnes. On l'écoute à nouveau.
L'objectif du gouvernement, l'objectif de l'État, c'est de voir dans le cadre du plan de relance, de reconstruction et des conséquences qu'on va tirer de cette crise, comment ne pas simplement agir sur le court terme, c'est déjà très important pour éviter le maximum de licenciements, comment on peut assurer les fondements d'une relocalisation, d'un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays.
Alors Hélène Spilichowski, vous allez encore dire que je cherche la petite bête, mais est-ce que c'est pas bizarre d'avoir un Premier ministre qui est déjà sur le terrain alors qu'on n'a pas encore de gouvernement? On l'imaginait passer la journée dans son bureau au téléphone avec ses futurs ministres, pas du tout.
Mais écoutez, j'ai l'impression que ce qu'il veut montrer, c'est qu'il ne va pas perdre de temps. Un, qu'il est motivé, qu'il est décidé, qu'il a des idées qu'on ne lui a pas forcément inculquées, peut-être, justement. Il montre, il s'assoit là dans sa responsabilité. Ça fait rien. On verra après ce que Emmanuel Macron va éventuellement lui confier. Et là, il montre que lui est là, justement, parce qu'on disait, est-ce qu'il va être effacé, est-ce qu'il va être à la botte? Eh bien non, il est là, il se déplace. Est-ce que c'est le président de la République qui l'a demandé? Probablement pas. Et moi, je trouve que c'est pas si mal. Moi, il m'a déjà surprise hier soir sur TF1, parce que franchement, à côté d'Edouard Philippe dans la passation de pouvoir, je trouvais qu'il avait l'air effectivement un peu terne par rapport au Premier ministre sortant.
Je n'ai pas trouvé du tout, justement.
Si, pendant dans l'allure, c'est-à-dire qu'Edouard Philippe était dans un tel moment...
C'était flamboyant.
Flamboyant, ça, avec ses applaudissements. Donc lui, c'était difficile lui, son rôle. Il faut reconnaître quand même. Il y a un Premier ministre au sommet de sa gloire qui s'en va. Donc c'était plutôt compliqué quand même. Et justement, il a montré très vite sa personnalité. Il a dit ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait responsabiliser les Français. Il a dit des choses intéressantes. Franchement, l'État ne peut pas tout faire. Il l'a dit aussi. Il l'a dit. Donc, on voit déjà un peu où il se situe.
Ah bah, il se situe à droite.
Et il n'a pas peur.
Jospin avait déjà dit ça aussi.
Maintenant, on attend qu'il dise il faut travailler plus.
Voilà. Non, il est déterminé. Il veut le montrer et il veut faire vite. On va avoir, je ne sais pas, on s'attend à avoir la liste du gouvernement peut-être avant mercredi.
Si vous écoutez. Emmanuel Macron aura fini de l'établir avec ses conseillers.
Selon les uns.
Mais encore une fois, je reviens. C'est vraiment aujourd'hui, on est dans l'ère des collaborateurs. Ce qui n'enlève rien au mérite de ceux qui ont cette fonction. C'est la loi du quinquennat, c'est la loi de l'alignement de l'élection présidentielle. La diarchie est de moins en moins vraie. La diarchie, c'était en effet de Gaulle. Pompidou, attention, contrairement à ce que j'ai entendu, Pompidou était un grand politique. C'était un vrai chef de la majorité.
Mais il est sorti
parce qu'il était politique. Et donc, là, cette sortie à laquelle on a assisté, à laquelle on fait allusion, mais bien évidemment, c'est pour ça qu'il était nommé. On est dans une crise sanitaire, économique et sociale extraordinaire. La France va flirter avec les 10% de décroissance, croissance négative. Donc, un nouveau Premier ministre, il est là pour incarner un nouveau souffle et pour porter en quelque sorte la politique du président en vue de sa réélection, celle du président, en 2022. Il ne va pas rester dans son bureau le premier jour. Il est là pour aller sur le terrain, pour s'occuper de l'entreprise, pour montrer que tout le monde est au travail et que ça démarre très très vite. Mais ce n'est pas du tout lui faire injure que de dire de ce nouveau Premier ministre qu'il est là pour emporter l'action du président.
Là, on est bien d'accord, mais on ne peut pas imaginer une seconde que le Premier ministre, dont la tâche est effectivement immense, qui doit redresser le pays, etc., travaille avec des hommes que Emmanuel Macron lui aura désignés comme ça. C'est pas possible.
Non, mais attendez, ça commence par son directeur de cabinet qui lui a été imposé par
Mais non, mais.
Oui, mais enfin, il a peut-être pas sous la main.
Henri Vernet, premièrement, il faut savoir une chose. Je pense que Jean Castex et Nicolas Revel se connaissent bien avant que Nicolas Revel.
Nicolas Revel, c'est le directeur de cabinet de Matignon qui est un proche d'Emmanuel Macron.
Macron avait essayé d'imposer Edouard Philippe, Edouard Philippe avait refusé.
Oui, mais la différence, c'est qu'Edouard Philippe ne connaissait pas Nicolas Revel et qu'il n'y a pas la relation de confiance qu'il y a entre Jean Castex et Nicolas Revel. Premier point. Deuxième point, c'est une lecture de la Ve République qui est gaullienne. C'est-à-dire qu'en clair, le président est prééminent et pas hyper-président. Et là, ça veut dire une chose, ça veut dire que quand De Gaulle est président, il n'est pas hyper président dans le sens où il n'intervient pas tous les jours. Et là, je pense que de la même façon, il y a une relecture qui fait que Jean Castex ne laissera pas l'action qu'il veut mener. Et il a une spécificité par rapport à Emmanuel Macron sur la proximité, sur l'idée qu'il se fait.
À lui la mise en œuvre.
Et on verra dans la composition du gouvernement, et notamment s'il y a des maires ou des figures différentes, qu'il apporte
ses suggestions, etc. Mais à la fin, il y a un maître.
J'en reviens à cette visite d'aujourd'hui, parce que vous allez voir, on va dire, c'est une visite à une entreprise, c'est un Premier ministre pro-MEDEF, Anita Husser.
Peut-être. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas un ministre pro-entreprise ?
Et Bichowski s'esclave, là, du coup.
Mais oui, mais écoutez.
Il a rencontré le syndicat.
Il a rencontré le syndicat cet après-midi. Oui. Donc, il allait dans une entreprise qu'il faut sauver, précisément.
Et il a vu les représentants du personnel.
Je ne savais pas qu'on endossait l'étiquette pro-MEDEF quand on passait la porte d'une entreprise. Ça, je ne savais pas encore.
Henri Vernet, l'accusation, elle va arriver. Mais attendez, c'est gros.
Non, je ne suis pas sûr. Non. Mais quelle est l'urgence aujourd'hui ? C'est l'entreprise. Sauver les emplois, encore une fois. On a décrit tout à l'heure la situation extrêmement grave, quoi, dans laquelle lui-même le dit dans son interview aux journaux régionaux, dont d'ailleurs le Parisien pour la capitale. Il l'a bien dit, Emmanuel Macron, la rentrée sera très dure, elle sera très difficile. Non, c'est là où il faut mettre le paquet une fois, même si elle n'est pas finie, en tout cas une fois dépassée à la crise sanitaire, c'est vraiment lutter pour les entreprises, pour l'emploi. Non, c'est tout à fait normal. En plus, alors là, pour le coup, je rejoins mon camarade Jérôme, Jean Castex, et l'atout qu'il a, c'est que, en effet, cet homme sait organiser, il sait s'entendre, il sait faire travailler ensemble les gens. On l'a vu avec les syndicats à plusieurs reprises, y compris quand il était au cabinet de Xavier Bertrand à la santé puis au travail. On l'a vu travailler avec tous les milieux sportifs, avec des barons locaux
hier,
sur les Jeux Olympiques.
Depuis hier, toute la gauche pilonne sur le fait que c'est un ancien Sarkozyste, que c'est un homme de droite.
Mais c'est son rôle, il va dans
une entreprise. Est-ce que c'est très malin?
Notre pays risque d'être en septembre à genoux. Donc, si on doit faire confiance à un acteur dans la société, c'est l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a des salariés et des patrons. Et j'allais dire plus de salariés que de patrons, que je sache. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien de contradictoire et surtout pas être pro-MEDEF que d'aller dans une entreprise qui est en difficulté.
Unanimité contre vous, Olivier.
Non, mais moi, je suis là, vous savez, pour faire
C'est plus les informés.
Vous m'aurez pas comme ça, vous allez tous boire un verre d'eau, on va écouter le film.
Je vous signale quand même qu'il a invité tous les parlementaires lundi soir à Matignon, déjà.
De la majorité.
Donc, son souci.
J'espère qu'il fera beau. Voilà. Il est 20h40. Le fil info, Emmanuel Langlois.
Une page qui se tourne à Lyon. Grégory Doucet est devenu tout à l'heure le premier écologiste à diriger la mairie, entérinant le départ d'un Gérard Colombo joueur malgré une cuisante défaite au municipal qui a sonné le glas de près de 20 ans de pouvoir dans la capitale des Gaules. Une femme est décédée cet après-midi en chutant d'une montagne russe d'un parc d'attractions à Saint-Paul dans l'Oise. La zone où se situe le manège a été fermée. Un accident sur cette même attraction avait eu lieu en 2009, coûtant la vie cette fois une femme de 35 ans. Voilà ce qu'on en sait à propos de cette enquête. La mesure a été promise par la ville en pleine crise du coronavirus. L'annulation des loyers de l'office HLM de Bobigny est illégale, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui demande ce soir l'abrogation de cette mesure. Couvre-feu, Covid-19 en Floride, manifestation contre le racisme. L'Amérique célèbre un 4 juillet au goût amer, généralement marqué par des parades, des fanfares et de grands feux d'artifice. Les festivités de la fête nationale ont été revues à la baisse à travers le pays cette année. Un hommage sera malgré tout rendu par Donald Trump ce soir à Washington. En Angleterre, les habitants sont invités à revenir s'attabler dans les pubs et les restaurants qui viennent de rouvrir au nom de la défense de l'emploi outre-Manche. Les salons de coiffure, cinéma et musées reprennent aussi du service. Une réouverture jugée prématurée par certains. Et puis retour aux affaires aussi pour la Formule 1. Fidèle à ses habitudes, Mercedes partira en première ligne avec Valtteri Bottas en pole position demain aux côtés de Lewis Hamilton. Ce sera le premier Grand Prix de la saison de F1 disputé à huis clos en Autriche.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Et on continue à débattre de politique. Vous plaignez pas les informés, vous adorez ça. Hein, mais j'aimerais qu'on en vienne peut-être à, comment dire, l'aspect présidentiel de ce remaniement. On a quand même l'impression que Emmanuel Macron joue très gros dans cette séquence. D'ailleurs, ce remaniement ne serait qu'une stratégie de repositionnement du président de la République. C'est pas moi qui le dis, c'est l'avis de l'ancien responsable de la com de Nicolas Sarkozy et grand connaisseur des arcanes du pouvoir, Franck Louvrier.
Remanier, quand vous changez le Premier ministre, ça a une impulsion forte. Il n'y a pas de doute. Surtout quand vous pensez que derrière, et là on va voir la feuille de route du président de la République et je dirais les profils gouvernementaux, surtout quand derrière il y a peut-être aussi la voie d'une nouvelle décentralisation. Là, il essaye de le faire incarner par un nouveau Premier ministre qui est un geste politique fort. On constatera et on verra dans l'avenir.
Hélène Plichowski, Emmanuel Macron a désormais les yeux rivés sur la présidentielle.
Bah oui, ça c'est très clair. Vous savez, c'est demain, enfin politiquement, parce qu'on va passer l'été et à partir de la rentrée, le
c'est
débat
moins
va
de deux
être
entier.
Oui, c'est moins de deux ans.
Pourrait, sur le plan aussi politique, quand même du pays, quand même, quoi,
voilà. Il y a longtemps. Mais vous savez, les sondeurs sont là à l'affût. Il y a des sondages sur les présidentielles en permanence. Donc on y est. Et tout le monde se demande maintenant, justement, au regard des personnalités qui arrivent dans le jeu politique français, qui pourrait effectivement être un adversaire pour Emmanuel Macron, puisque c'est ça la préoccupation apparemment, tout du moins pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais là, ce qu'il a voulu marquer en changeant de Premier ministre, c'est contrairement à ce qu'on imaginait, on pensait qu'il allait faire un virage politique. Tout le monde disait il est temps qu'il fasse un virage social aussi, c'est-à-dire un peu plus à gauche, parce que la demande exprimée à travers le vote des Verts,
c'est aussi... On s'attendait à une femme socialiste, c'est ça.
Aussi, et puis bon, c'est aussi une demande sociale. Non, mais c'est aussi une demande sociale. C'est une demande de plus de gauche, de plus d'assistance, de plus, etc., de prise en compte des pauvres, enfin tout ce que vous voulez. Plus à gauche, disons. Et là, non, il n'y a pas de virage à gauche du tout. Il y a confirmation d'un positionnement à droite. Ça, c'est très clair. Donc là, ce qu'il veut montrer avec ce choix de Jean Castex, c'est plus un changement de méthode. C'est un autre choix. On prend quelqu'un qui va procéder différemment. Nous ne sommes plus là à diriger la France depuis Paris, avec deux hommes puissants en passe de se concurrencer à la tête du pouvoir. En l'occurrence, le président et son premier ministre qui avaient pris la lumière, effectivement. Je prends un homme de terrain qui connaît ça parfaitement, qui sait comment ça marche et qui va prendre en compte les territoires puisque moi, je n'arrive pas à le faire.
Avant de changer de méthode, il faut changer le fonctionnement. Et c'est justement ce que va faire Jean Castex. Oui. Parce que actuellement, les patrons, les maires, les patrons de départements et de régions sont vent debout contre l'État centralisateur qui les bloque à tous les niveaux. Or, pendant la crise sanitaire, ils ont montré leur réactivité. Et pour l'achat des masques, c'est pas la peine d'en reparler. Et pour la réorganisation des services médicaux dans leur secteur. Et dès qu'ils veulent prendre une initiative, on dit « Ah ben non, il faut demander à Paris, c'est ceci ». Donc là, il y a une vraie vague décentralisatrice.
Ils ont même été en conflit parfois, les régions contre l'État.
Là, il y a une vague décentralisatrice qui est en marche.
Tout à fait.
Henri Vernet, c'est une vraie stratégie de la part du président de la République. Parce qu'on pouvait se poser la question. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de se poser la question. Pourquoi changer Édouard Philippe pour mettre à la place Jean Castex alors que finalement les profils sont très semblables?
Non, mais ils sont très semblables. Et là, encore une fois, étant davantage collaborateur que ne l'était l'autre, parce qu'encore une fois, il est moins politique. Et ça, j'en démords pas. Et donc, on va vers cet effacement, encore une fois, du Premier ministre dans notre nouveau système au profit d'une sorte de secrétaire général d'exécutant.
On le dit depuis François Fillon, d'ailleurs.
Alors oui, mais sauf que François Fillon s'était rebellé, il s'était rebiffé, parce qu'il avait justement, lui, un poids politique.
Le collaborateur.
Mais bien sûr, mais lui avait un poids politique incomparable. Et lui, surtout, il avait le contact, il avait l'oreille de la majorité à l'époque. Et donc, c'était pour ça qu'entre les deux, c'était souvent avec des étincelles, moyennant quoi, ils ont tenu les 5 ans.
Mais la majorité n'a pas été tenue. La majorité n'a pas été tenue par Édouard Philippe, elle s'est fragmentée, effritée. Donc, je reviens sur ce que vous dites. Premièrement, il s'est pas appuyé sur les Républicains. Et deuxièmement, la majorité s'est fragmentée.
Donc, c'est pour ça qu'il reçoit tous les parlementaires, d'ailleurs.
Bien entendu, je pense qu'il y a quelque chose à renouer là-dessus.
Oui, mais il y a un seul chef de la majorité. Il s'appelle Emmanuel Macron. Ce sont les quelques 300 députés qui lui doivent son élection.
Si c'est le chef, alors il n'y aura pas de
présentation. Mais si, c'est le seul. Vous verrez bien. Alors maintenant, sur la stratégie, est-ce que la décentralisation, oui, ça peut marcher si c'est suivi d'actes. Or, pour l'instant, la loi, elle est toujours dans les tiroirs. Ils veulent des choses. Exactement. Ce qu'ils veulent maintenant, l'exigence du président, et c'est pour ça, c'est là que vient la logique entre Édouard Philippe et Jean Castex, c'est qu'il faut que les changements, que les réussites soient perceptibles, voilà, que les Français s'en rendent compte. Et la grande frustration d'Emmanuel Macron par rapport à Édouard Philippe, c'est que parfois, il a eu l'impression qu'il y avait une inertie administrative, tout ce qu'on voudra, les pesanteurs de notre système de fonctionnement étatique, que contre lesquels peut-être que ce Premier ministre précédent n'était pas, ne les bousculait pas assez. On l'a vu notamment dans la crise sanitaire.
Édouard
Philippe
était
très précautionneux. Oui. Il respectait énormément le principe de précaution. Donc, il y a tout ça. Donc, voilà, la logique, elle est là. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il vit, c'est en effet sa réélection. Et donc, c'est que les choses aillent vite, qu'elles deviennent perceptibles et que les choses bougent.
Est-ce sur la décentralisation, j'y crois pas beaucoup. Juste un mot à ce moment-là, du rôle qu'il a dévolu à Édouard Philippe, Emmanuel Macron. J'ai trouvé ça assez extravagant.
Parce qu'on en parle juste,
ça vient dans le sujet, là. Je suis désolée, puisque, à propos de la majorité, puisque il lui a demandé, grosso modo, c'est ça, donc de bien resserrer la majorité, de lui retrouver du sang. Il y a eu, effectivement, elle s'est effritée, il y a eu des dépeints, il y a eu Gilles Legendre, le président du groupe à l'Assemblée, qui a été assez maladroit, il y a un tas de choses. Et il a demandé à Édouard Philippe, avec toute la compétence qu'il a, la bonne connaissance qu'il a effectivement de la majorité et pour cause, de bien la serrer et en fait de la préparer pour l'élection d'Emmanuel Macron. C'est transparent, mais c'est tellement transparent qu'on se demande si c'est vrai. Enfin, j'ai trouvé
et
ça.
Et d'ailleurs, Édouard Philippe en est fâché, c'est un petit écho qu'on passe demain dans le journal.
Il a dit de le ligoter, de le laisser.
Emmanuel Macron voulait faire Édouard Philippe en disant « Mon vieux, vous occupez-vous donc de la majorité. »
Je ne crois pas qu'il ait cru ça une seconde, Emmanuel Macron, c'est pas possible.
Déjà, c'était élégant. Ça présentait un aspect élégant dans le sens où c'était pas, on le remercie pas et en plus on le confie une mission. Deuxièmement, je crois, par rapport à ce que vous dites, Henri, c'est que c'est une vraie erreur si Édouard Philippe est vexé de ça. Parce que c'est un poids incroyable. Et confier la majorité à l'ancien Premier ministre.
Il va la garder
pour
lui.
Qui d'ailleurs aujourd'hui est maintenant
en
réserve de la République.
Essayer de maintenir la cohérence de la majorité, c'est peut-être encore plus difficile que déconfiner, compte tenu de la situation politique.
Absolument. C'est vrai, c'est tout à fait. Mais là, je pense qu'il y a des aspects humains qui sont très importants. Et je reviens sur une chose que vous disiez, Henri. Jean Castex est un politique. Édouard Philippe ne vit pas au Havre. Il est dans une ville, une grande ville. Il ne vit pas avec sa famille au Havre. Jean Castex est dans une ville de 6000 habitants. Il y vit avec sa famille et il y retourne toutes les semaines. Non mais attendez.
Oui, après on parle de l'accent, c'est... du terroir.
Non, c'est une façon. Non, c'est une façon de gérer. C'est une façon de gérer. Donc c'est un politique. Et je pense qu'il.
Ouais, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de communication politique. Et c'est logique.
C'est la vérité.
Qu'un premier ministre n'habite pas dans à la ville du Havre, à 300 km de Matignon.
Non mais pas maire. Quand il était maire. Quand il était maire.
On va parler d'Édouard Philippe dans un instant. Mais il est 20h50. C'est le Fil Info. Emmanuel Langlois.
Et Jean Castex qui planche tout ce week-end sur la formation le plus vite possible, dit-il, d'un nouveau gouvernement. Première sortie pour le nouveau Premier ministre depuis sa nomination à Matignon. Hier, il a visité aujourd'hui une usine de semi-conducteurs, c'était dans l'Essonne. D'après un dirigeant de l'exécutif, le remaniement est bouclé. La liste des nouveaux ministres désormais arrêtée. Jean Castex se réunira après-demain, lundi, dans les jardins de Matignon. L'ensemble des députés et sénateurs de la majorité. Le nouveau gouvernement pourrait être annoncé en début de semaine. Pour la première fois depuis 25 ans, la cité phocéenne bascule à gauche au terme d'une campagne électorale riche en rebondissements. Marseille sera donc, et pour la première fois, dirigée par une femme, Michèle Ruberola, qui a été élue maire au terme d'un interminable scrutin aujourd'hui. Ce coup de théâtre à Vitry-sur-Seine, près de Paris, où le maire sortant Jean-Claude Kennedy, parti communiste, a été supplanté par un de ses colistiers tout à l'heure. Les pros et les anti-ours mobilisés après l'abattage d'un plantigrade, c'était début juin, qui a relancé les tensions entre les deux camps. 150 personnes ont défilé en faveur des ours à Toulouse, 2000 autres contre autour de l'étang de Lerse en Ariège. À l'étranger, en Syrie, des affrontements entre les forces du régime de Bachar el-Assad et les djihadistes du groupe État islamique. Elles ont fait une quarantaine de morts en deux jours dans le centre désertique du pays en guerre, d'après une ONG. Et puis ils seront seuls à la barre de leur bateau pour 10 jours de mer entre le cercle polaire nord et les Açores. Les 20 skippers sont partis au large des Sables d'Olonne pour la Vendée Arctique, une course de préparation au légendaire Vendée Globe.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Voilà, on a parlé de Michel Rubiro, là, on a parlé de Jean Castex, d'Emmanuel Macron. On va donc évoquer maintenant celui qui semble, en tout cas, vous allez nous le dire, quitter le devant de la scène sur la pointe des pieds. Édouard Philippe, qui a fait ses adieux hier à Matignon. Quelle peut être maintenant sa stratégie? Vous allez en débattre, mais écoutez cet extrait de la passation de pouvoir hier.
Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau. Vous êtes appelé à diriger l'action du gouvernement. C'est un honneur immense. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous saurez prendre les bonnes décisions. Il vous appartiendra, monsieur le Premier ministre, désormais de continuer à servir la France. Vous la servez depuis bien longtemps. Soyez bon. Et comme on dit chez moi, bon vent.
Voilà, soyez bon. Anita Auxerre, est-ce que finalement il ne part pas au meilleur moment pour lui?
Tout dépend de ce qu'il veut faire.
Oui. Oui, c'est une très bonne remarque, ça, Anita Auxerre. Alors, à votre avis.
Une question pour une question.
À votre avis.
Compte tenu... vacances en ton goût.
D'abord, il va pouvoir prendre des vacances. D'abord, c'est vrai qu'il je pense qu'il en a besoin.
Honnêtement, moi, je ne crois pas qu'il va devenir un opposant de l'intérieur à Emmanuel Macron. Je ne crois pas une seconde. Alors, son ami, son bras droit, Gilles Boyer, l'a déjà dit, il ne sera pas candidat en 2022. Moi, je n'imagine pas Édouard Philippe. D'abord, il n'a pas de troupe, puisqu'il n'a pas adhéré à LREM. Il a été exclu des Républicains. Et je crois que
Il a un poids politique maintenant.
Il a un poids politique dans l'opinion. Mais enfin, c'est compliqué, hein.
Difficile à transformer.
Pardon ?
Difficile à transformer.
Oui, moi je ne crois pas une seconde qu'il va maintenant dire je suis candidat à l'élection présidentielle.
Édouard Philippe n'a plus d'avenir,
moi je répondrai pas à une question par une question, mais elle était intéressante la question, effectivement. Je sais pas s'il a une ambition, maintenant on peut l'avoir pour lui. C'est pas impossible qu'elle soit nourrie par d'autres personnes, y compris dans son entourage. Maintenant, il est évident que c'est difficile à transformer, c'est-à-dire qu'il a un poids politique dans la population, mais qui sera difficile à transformer. Il n'a pas de troupe, il n'a pas de mouvement, enfin, c'est très compliqué. Et puis, je pense que ça ne correspond pas, effectivement, Anita a raison, ça ne correspond pas à sa nature. C'est pas quelqu'un de déloyal, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Mais... Donc je ne le vois pas non plus être un opposant de l'intérieur.
Ah, 2022, vous êtes d'accord, 2027, il ne peut pas être un recours?
Oula.
Ça change tellement vite aujourd'hui que déjà 2022, c'est dans le marc de café, alors 2027.
Mais quand il a dit qu'il ne se présenterait pas contre Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire que c'était ad vitam aeternam? Ou est-ce qu'éventuellement, il disait, tant que je suis là, tant que je suis en poste, je ne vais pas plus ou moins préparer...
Il a été dit en 2022.
Oui,
la date a été précisée.
Oui, mais enfin, moi je pense que...
Édouard Balladur avait dit des tas de trucs comme ça aussi.
Édouard Balladur, souvenez-vous de...
Méfiez-vous des Édouards.
Macron et Hollande, tout simplement.
Édouard Philippe, c'est le chouchou de toute la droite républicaine française. Et c'est pas mais rien, c'est parce pas que vous savez, la France, quand même, n'a pas viré vers... Comment?
Mais non, mais...
De la droite républicaine? Édouard Philippe?
D'une partie de la droite.
De l'UDF. De ce qui s'appelle l'UDF, le centre droit.
Comment non? Mais bien sûr que si. Enfin, bien sûr que si. Et je peux vous dire que s'il s'était présenté à Paris, il aurait été élu les doigts dans le nez parce qu'il a un électorat. Vous dites qu'il n'a pas de troupes. Il n'a peut-être pas de troupes à lui, mais elles viendront à lui, c'est sûr, dans la mesure où il va prendre la lumière. Il l'a déjà prise à Matignon. C'est quand même Emmanuel Macron qui a fait de lui une personnalité politique au niveau où il se trouve aujourd'hui. C'est quand même pas rien. Et moi, je suis certaine qu'il aura peut-être du mal un jour à résister, comme on dit, à l'amicale pression de ses amis.
C'est
ça, c'est certain. Parce qu'il va être porté.
Deux ans, c'est long. Et que
sa droiture, parce qu'il est apparu comme quelqu'un d'extrêmement honnête, c'est ce qui a fait partie de sa popularité aussi, quelqu'un de parfaitement droit. Et il va avoir du mal peut-être, mais il y a du temps maintenant. Si, ça dépend de ce qui se passera par ailleurs pour Emmanuel Macron, mais moi je crois qu'il aurait toutes ses chances et que ça va être difficile pour lui d'y résister.
Là où je vous rejoins, c'est que c'est clair qu'il y a un espace qui est à occuper aujourd'hui, qui est celui de la droite, d'une partie de LR assez conséquente, qui est celui évidemment du centre-droit. D'ailleurs, c'est pour ça que s'est créé cet énième groupe assez bien récemment, au sein de l'Assemblée nationale. Ce groupe-là, cette droite, elle n'est pas incarnée pour l'instant. Enfin, elle est incarnée par plusieurs personnalités. Je veux dire que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit l'éternel jeune premier François Baroin. Mais pourquoi pas pas Laurent Wauquiez qui rêve de retour, mais bref, aucun ne se détache réellement. Non. Donc là, il y a un manque d'incarnation. C'est vrai qu'il y a quelque chose à prendre. Il y a alors cette fameuse mission. Non, le petit truc qu'on raconte demain, c'est qu'il est un petit peu fâché de la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est annoncé.
Qui est fâché
communique de Edouard, la mission qui lui est confiée de manière un peu cavalière, disons que normalement serait davantage
consolation,
un accord. Mais il y a là une réalité. En plus, encore une fois, Édouard Philippe sait faire ça. Il est l'un des fondateurs de l'UMP, c'est-à-dire ce regroupement entre l'UDF, les centristes historiques.
C'est pas une grande réussite.
Attendez, elle a, mais sauf qu'elle a des conquêtes électorales pendant un certain temps. Et donc, bref, il y a cet espace qui existe, qui n'a pas d'incarnation forte.
Excusez-moi, Henri, mais le président est sur l'espace de droite.
Alors, tout à fait d'accord avec vous, Jérôme, sauf que regardez le président dans quel état de popularité il est aujourd'hui. Il est, enfin, il a affronté les gilets jaunes. Il est mis en question. Mais non, ce que je veux dire, Jérôme, c'est que vous le savez très bien, aujourd'hui, un homme politique ou une femme politique est caramélisé à vitesse grand V.
Vous savez quoi? Vous savez quoi, les informés?
On prend les gens et on les essaie immédiatement.
Henri Vernet, vous savez quoi? Quand vous êtes en studio, ça n'a rien à voir. Malheureusement, c'est déjà fini. Les informés.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'est pas en situation de se présenter en 2022.
À vous quatre, Hélène Pilichowski, Jérôme Épaule, Anita Auxerre, Henri Vernet. Passez une très bonne soirée. Et puis vous restez avec nous. L'info continue sur France Info.